t'imagines si toutes les histoires des aînés, ça se passait dans le futur?
Puis du coup, je me suis dit que c'était ça, en fait, que j'avais envie de faire dans le podcast. C'était donc, au travers de cette collecte de mémoires, trouver quels étaient les ponts qui étaient intéressants à transmettre à des gens qui sont sur le numérique et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on avait envie de se faire raconter, de faire les mémoires, quoi. Et donc, en arrivant au Québec, après, j'ai collecté, du coup, d'autres francophonies que seulement moi, chez moi, dans le sud. Et donc, il y a des Acadiens, il y a des Belges, j'ai récolté aussi dans le sud de la France, dans le nord de la France, et là, c'est vous. Donc, je suis poule heureuse.
Ouais. Quand tu parles de l'écart des générations, j'ai pensé à une amie, en fait, c'est la mère de ma meilleure amie que je connais depuis l'enfance, elle était ma voisine. Et donc, sa fille, on est devenus amis. On avait Claoui à traverser tous les deux. Et comme sa fille est partie vivre en France, moi je suis restée en Martinique. Donc, à son grand âge, c'est moi qui m'occupais d'elle un petit peu. Et quand elle a été en maison de retraite, elle est décédée à 106 ans. Mais un jour, justement, elle avait 105 ans, quand une autre copine est venue la voir avec son mari. Et elle dit, ah, mais c'est super, un jeune homme qui vient me voir aujourd'hui, je suis très honorée, un jeune homme vient me voir. Alors le jeune homme, qu'est-ce qu'il dit, mais mon Solange, je ne suis pas un jeune homme, j'ai 85 ans. Alors elle dit, eh bien oui, 85 ans, tu es un jeune homme pour moi, parce que tu as 25 ans de moins que moi.
20 ans.
C'est 20 ans.
Oui, c'est ça.
Et justement, j'ai pensé à ce moment-là que moi, j'ai même pas le calcul mental aussi rapide qu'elle. et voilà que... Ben oui, tu es un jeune homme pour moi, puisque tu as cet âge-là et que voilà.
Ah, c'est fini.
C'est marrant.
Ben oui. C'est un beau jeune homme, il était tout flatté.
Il y a deux générations là, quand même. Ouais, c'est ça.
Ouais,
oui, c'est jeune.
Ben oui, carrément.
On se croit vieux et des fois, non.
Il y a plus vieux. Ouais. C'est ça. Puis, moi, je vous invite, si vous avez envie de commencer par vous présenter, puis raconter un peu, qu'est-ce qui vous anime dans la vie et qu'est-ce qui fait qu'on s'est rencontrés ici, qu'est-ce qui vous a amené à être à l'heure actuelle à Trois Pistoles. Ça, on peut commencer par là, si ça vous dit. Tu veux commencer? Vas-y, Jean.
Alors, qu'est-ce qui m'anime déjà dans la vie, c'est les gens, c'est le plaisir, c'est les rencontres, et c'est transmettre aussi, et c'est intergénérationnel, j'ai trouvé c'est intéressant, pour ça nous permet déjà de, comment dire, parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Donc c'est vraiment un autre monde et de pouvoir en discuter avec eux et puis d'avoir l'écoute, et je trouve ça fabuleux et c'est une chance, c'est une chance si tu veux, c'est toujours un plaisir de venir voyager comme ça. En plus, j'ai découvert une autre culture, une autre façon de voir les choses. Enfin, bref, une autre culture, ça veut dire tout ça aussi. Et donc, c'est toujours très riche. On finit jamais de connaître, on finit jamais d'apprendre, tu vois. Et c'était hyper enrichissant. Parce que j'aborde pas, si tu veux, c'est l'humain qui compte pour moi. Donc j'aborde pas comme si, enfin, je viens ici pour faire mon show et puis basta, quoi. Donc le contact humain, c'est très important. Le lien que je crée avec les autres, avec les gens, c'est d'abord ça que je cherche. Et puis les gens, de créer cet univers-là, enfin, pas créer l'univers, c'est pas le mot, mais créer ce rapport qui est important, c'est essentiel pour moi, tu vois. C'est essentiel, c'est ça qui me donne, c'est ça qui me donne le plaisir, c'est ça qui me nourrit complètement, tu vois.
C'est pour ça que tu décides de faire du compte, parce que tu trouves que c'est aussi un bon moyen de rencontrer, tu penses?
Oui, le compte, enfin, de partager déjà sa culture, c'est un moyen de rencontrer l'autre. Et oui, c'est intéressant, ça permet de voyager aussi. On se rend compte qu'on fait un métier qui est très... on a de la chance de pouvoir voyager tout en rencontrant des gens, en prenant du plaisir. Et, c'est hyper fructifiant, quoi. On a un intérêt de toute manière à le faire. C'est important, c'est essentiel. C'est essentiel, sinon on reste sur ce qu'on connaît, puis ce que je voudrais, c'est rester plus longtemps ici pour vraiment connaître. Mais ça, c'est pas, je peux pas, mais pour le moment. Mais en tout cas, j'espère, et puis ça va me poursuivre de toutes les manières. Et ça, c'est sûr que ça va me grandir.
Et comment t'es tombé dans le compte, toi, Jean?
J'ai commencé par le théâtre. Je ne vais pas te cacher, j'ai commencé par le théâtre parce que j'aime beaucoup le théâtre. Je trouve ça tellement vivant, tellement... je ne sais pas, on va à l'essence de ce que j'aime, quoi. Tu vois, ça me fait vibrer vraiment le théâtre. Et puis de sentir les gens avec toi. Le lien, c'est toujours le lien qui me nourrit. C'est ça le plaisir. Tu as des métiers où tu n'as pas ce lien-là, tu vois. Tu as d'autres métiers, tu l'as. Mais il y a des métiers où on ne l'a pas. Vraiment, les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais. Et finalement, ce n'est pas très valorisant. Et ça ne t'aide pas à te construire. Tandis que le conte, le théâtre, je trouve que c'est l'essence même de la beauté, de comment dire, de rendre d'essayer d'apporter quelque chose de différent, quelque chose que les gens n'avaient pas pensé, et ça donne une manière de... Ça peut changer la vie des gens, tout simplement, tu vois, de manière très, très constructive.
Trop chouette, merci.
T'en prie.
T'embarques.
Alors, moi, je suis toute petite... J'étais dans le conte déjà parce que à mon époque il n'y avait pas la télé, la radio, même la radio. J'avais déjà 10 ans quand on a eu la radio, hein, je pense. Et voilà, donc c'était beaucoup plus prégnant à mon époque que maintenant. C'était ma pratique quotidienne. Après, j'étais dans un mouvement de jeunesse aussi. On faisait souvent des... On ne faisait pas de soirées contes, mais surtout des petites scénettes. On racontait des histoires, on jouait des histoires. Et puis, après, quand j'ai... choisi ma profession, j'ai commencé, j'étais orthophoniste. J'ai commencé à travailler le conte comme outil pour aider les enfants à se développer. Je travaillais dans un centre pour enfants et dans mon institution, il y avait plusieurs personnes, dont la psychologue, le psychiatre, les psychomotriciens. Enfin, on était tout un groupe de professions différentes, mais toutes tournées vers l'épanouissement de l'enfant, la conquête de sa personnalité, le règlement des conflits intérieurs et tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis aperçue qu'avec le conte, je pouvais vraiment toucher, faire évoluer les enfants dans tous les domaines, aussi bien le domaine technique de la voix, de la parole, du langage, que l'évolution de la personnalité. Et vraiment, c'est, pour c'est moi, c'était un outil magique. Au lieu d'utiliser les petits textes, et il y va au marché, des choses. Non, c'est Martine qui va ça. Avec les contes, ça permettait vraiment de toucher les enfants au plus profond d'eux-mêmes. Et ça leur permet de s'identifier aux héros. Et le travail se fait sans qu'on ait à les presque les attaquer, dire toi, il faut que tu fasses ceci, cela. Ça se passe beaucoup plus en douceur quand c'est une identification à un héros.
On trouvait eux-mêmes ce qu'il y avait à trouver dans le conte.
Voilà, ouais, c'est eux qui travaillent.
Ouais. C'est beau.
Ouais, c'est un support intéressant.
Voilà. Ouais. Et donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein d'un atelier conte thérapeutique. Et puis, j'ai commencé à fréquenter l'association enfin, qui ne s'appelait pas à cette époque-là Association Martinique Image, mais j'allais aux manifestations et je revenais à mon travail avec les contes que j'avais entendus, etc. Et c'était très 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 intéressant. Et puis parce qu'on faisait non seulement l'atelier, mais on avait des séances de, comment dirais-je, des séances de travail, quoi. Voilà, donc c'était très enrichissant pour moi.
Ben oui.
Et quand j'ai retraité ma vie, ma profession, c'est le conte qui a été...
qui a sorti de tout ce jeu-là.
Le jour de mes 70 ans, il y avait, c'est-à-dire le jour où je prenais ma retraite, je retraitais ma vie, il y avait trois groupes de personnes parmi les invités. Il y avait plus d'une centaine de personnes et c'était, il y avait ma famille et les amis que j'ai rencontrés tout au long de ma vie. Et puis, donc ça faisait déjà deux groupes, la famille, les amis, toutes les relations que j'ai eues. Et puis, le groupe des conteurs que j'allais rejoindre, qui allaient désormais... Voilà.
Et c'est quoi la place du conte en Martinique, alors? Comment ça se passe? Alors, ça se passe où, le conte en Martinique, vous voyez?
Alors, du temps où j'étais petite, il y avait... Enfin, ça avait une place beaucoup plus importante parce que, je vous dis, il n'y avait pas la radio... Et on faisait systématiquement des veillées mortuaires. On comptait dans les veillées mortuaires. Quand il y avait quelqu'un qui était décédé, le soir, tout le monde se réunissait dans sa maison et on comptait des contes ou des petites histoires de sa vie, de la vie du défunt. Et puis, c'était vraiment la tradition à ce moment-là. Et puis... progressivement, ça a disparu. À l'époque, enfin, moi, j'ai connu l'époque où, pour annoncer une mort dans un quartier, on sonnait la conque de Lambi. Et puis, les gens savaient qu'il y avait mort. Et puis, il y avait aussi le glas, c'est-à-dire qu'on sonnait les cloches. Mais les cloches de l'église sonnaient, ça en soit avec quelqu'un qui était décédé. Et à cette époque-là, je vous disais, il n'y avait pas la radio, mais même les annonces communales se faisaient avec le garde champêtre qui arrivait avec son tambour, madame, 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 avis à la population. Le maire de la commune vous informe que telle chose va se passer. Tenez-vous, ça va bâmer pendant quelques jours pour faire des travaux. voilà. Ouais, c'était comme... une autre époque.
Et, ouais.
Et après ça, il y a eu la radio qui est arrivée, la télé, et progressivement, et puis il y a eu... On a commencé à ne plus faire les veillées chez les gens. Mmh. Maintenant, il y a des maisons mortuaires où on fait la veillée. Et puis, ça finit à 10h du soir. À 22h, c'est-à-dire à 22h, tout le monde repart chez soi et on remet le monde dans un tiroir réfrigéré.
En Martinique, il y a des endroits où ça existe encore, dans les campagnes. Il y a des coins en Martinique où c'est resté aussi les compteurs dans les villes mortuaires. Ça n'a pas complètement disparu. Okay. C'est vrai que j'ai participé à une conférence une fois et effectivement, ils voulaient remettre ça vulgariser ça beaucoup plus. Mm-hmm. Et donc, ils ont essayé parce que. Si tu veux, le conte en Martinique, moi, ce que j'ai connu dans mon enfance, c'était des gens qui, comme elle dit, moi, j'ai grandi sur une habitation, l'habitation des Béquets, donc des colons, des anciens colons. Donc, nous, comme dit Marie-Georges, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau courante qui arrivait à la maison, on avait une radio, et contrairement, ce que la radio, c'était ce qui nous nourrissait aussi, qui avait la musique. Donc, en tant qu'enfant, on s'exprimait sur la musique qu'on entendait. Il y avait juste deux fréquences. On prenait France Inter.
Ah ouais.
Et puis, une radio de la Dominique. Oui, oui.
France Inter.
Oui, oui. Non.
C'était pas France Inter, c'est Radio Martinique.
Non, on prenait France Inter et Radio. On prenait même pas Radio Martinique. Ça, c'est ta génération.
Il avait 20 ans de moins que moi.
J'ai 20 ans de moins.
Exactement, ouais.
Donc, c'est pas la même génération. Ouais, donc, il y avait ça. France Inter et puis une radio, même pas Radio Martinique. Il y avait une radio de la Dominique. Donc, on écoutait souvent du soca, calypso, une musique qu'on aimait beaucoup, Exaïron, enfin de la musique comme ça. Le zouk qu'on a en Martinique maintenant, ce n'était pas encore d'actualité. Ils n'avaient pas encore créé cette musique. C'est à partir de la musique haïtienne, du calypso, tout ça, ils ont pu créer de la salsa, enfin, tout ça, de Cuba, tout ça, qu'ils ont créé le zouk martiniquais.
Le vraiment, fameux zouk martiniquais. Ouais,
donc on vivait vraiment, sur cette habitation, on vivait vraiment les portes ouvertes, tu vois. Donc, nous, les enfants, quand on sortait de l'école, notre distraction, c'était de se retrouver sur la petite place où il y avait tous les gens du quartier. Et puis, on se retrouvait et puis on se mélangeait aux adultes qui venaient aussi. Donc, on les écoutait. Ils travaillaient dans les champs. Donc, ils racontaient des anecdotes, ils racontaient leur quotidien. Et la parole circulait tout le temps. Donc, des fois, ils nous disaient « Non, vous êtes trop petit, sortez de là. » Ça, c'est les affaires des grandes personnes. Ça ne vous concerne pas. Et des fois, ils nous toléraient. Donc, on était là, on ne parlait pas. Tu vois, on ne parlait pas. Surtout, s'il ne fallait pas parler, ça allait se faire tout petit.
Oui, c'est ça.
Sinon, on pouvait... C'est là qu'on a commencé à tendre l'oreille. Et puis, on se disait « Ah, oh, oui. » Et donc, c'était déjà des... Ça a commencé par les récits de vie avant le conte, tu vois. Et donc, on était très à l'aise sur les musiques avec notre corps, puisqu'on était tout le temps dehors en train de jouer. On avait un cercle de vie à peu près d'un kilomètre, tu vois. Donc, pour nous, c'était à perpète, quoi. Donc, du coup, pendant les grandes vacances, après l'école, on n'avait pas besoin d'aller plus loin. T'es enfant, pour toi, c'est le bout du monde, quoi. Et il y avait très peu de voitures, donc quand on faisait une sortie, il y avait juste une voiture dans le quartier, donc comme on a fait tout à l'heure là, le chauffeur nous disait « Baisse-toi, attention, il y a des gendarmes !» Parce que la voiture était remplie.
On est mis sur la gueule, parce qu'il y a 6 dans la caisse. Tantôt, c'était bon.
Donc, effectivement, on était beaucoup plus à l'aise que... On était vraiment... C'est pour ça qu'on a vraiment le sens... Et puis, on écoutait à la radio la musique et on essayait de reproduire. On essayait de reproduire la musique avec des bâtons, avec les boîtes, tu vois. Donc, on fabriquait des guitares avec des fils de pêche, tu vois. On faisait nos guitares et puis on dansait là-dessus. Ce qui fait que je pense que ma manière de m'exprimer dans le conte maintenant, je suis très à l'aise avec mon corps. Ça peut être très statique, mais des fois, je peux être très à l'aise dans mon corps. Et même quand c'est statique, j'ai tout ça en moi. Donc, j'ai l'impression que les gens, ils perçoivent ça parce que tout est dans mon imagination. Et du coup, j'arrive à transmettre tout cet univers-là aux gens. Et contrairement aux générations qui ont suivi, qui avaient les écrans, comme dit Marie-Georges, ça a tué un petit peu l'imaginaire des enfants.
Et c'était la question que j'avais envie de vous poser juste après ça, mais dans votre conception de l'imaginaire et de la manière dont il a évolué, genre de vous à nous, est-ce que vous avez vu une évolution, justement, un truc qui se fait enfermer ou non, justement, plus de capacité à avoir de l'information, donc à connaître d'autres choses? Comment est-ce que vous percevez l'évolution de l'imaginaire? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça?
Je pense.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je pense qu'il y a. Il y a quelque chose, il y a le bon côté, mais il y a le mauvais côté aussi, je pense. Parce qu'ils ne sont pas, je veux dire, ils sont pas dans le concret. Pour moi, c'est pas, il n'y a pas un point d'ancrage. Il n'y a pas un point d'ancrage où après tu peux partir ailleurs, tu peux te disperser, enfin tu peux imaginer, enfin tu peux... t'approprier les autres, tu vois, le savoir des autres, l'oralité des autres, tu vois. Donc, et c'est ça, je trouve que maintenant, à cause de ça, l'imaginaire est un peu dénaturé, tu vois. Moi, je trouve, hein, on n'est pas dans le concret, dans les trucs naturels, tu vois, le truc vraiment. Il n'y a pas une base solide. La base n'est pas assez solide. La base est trop quelconque, donc ils peuvent partir dans toutes les directions. Et du coup, ils n'arrivent pas à comprendre qui ils sont. Tu vois, et c'est ça le piège.
Ouais.
Donc, savoir qui on est d'abord, et on est bien ancré dans son pays, dans son identité, et pour pouvoir ensuite s'enrichir des autres. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se perdre complètement. Et les gens qui viennent de l'extérieur, ils se disent, mais c'est quoi exactement leur identité, leur culture? C'est ça que j'ai peur, c'est ça qui fait peur.
On est interconnectés, quoi.
Ouais.
Ouais. On a l'accès à tellement de réseaux et de choses qui nous connectent les uns avec les autres que maintenant l'imaginaire devient plus global.
Ouais.
Puis nos vies s'uniformisent.
Ouais,
enfin, c'est oui. Toute notre identité parce qu'on se pense toutes la même chose, en fait.
C'est ça, hein. Même nos villes commencent à se ressembler, ce qu'on mange. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Mais c'est ça.
On peut manger des bananes partout, dans toutes les épiceries du monde entier, à toutes les heures de la journée.
Ouais.
Alors que les bananes, ça vient pas de partout.
Ouais.
Rien que ça, c'est fou. Alors que quelqu'un qui devait te raconter qu'est-ce que ça goûte une banane quand t'as la possibilité d'en manger, qu'à la place où il y a des bananes, ça change tout.
Ben oui, c'est la société de consommation. On est rentré dans on a l'impression qu'on consomme, puis on consomme, ça veut dire qu'on comprend, on a réussi.
Ouais.
Alors que on ne pensait même pas à ça. On consommait ce qu'on avait, c'est tout. Tu vois?
On pouvait se contenter de ça aussi.
Quoi?
On pouvait se contenter de ça aussi.
On arrivait à se contenter. C'était très intéressant parce qu'on avait vraiment le goût. On savourait, on appréciait ce qu'on avait. Et ça prenait du sens.
Quand tu parles de la nourriture, quand j'étais petite, bon, j'habitais à la campagne, j'habitais une commune et puis à la campagne en plus. Et mon père descendait à Fort-de-France tous les mercredis parce qu'il travaillait à la mairie et il allait porter les pieds à la préfecture. Il n'y avait pas... On n'envoyait pas par Internet. et donc, quand il allait à Fort-de-France, d'abord, il allait acheter des choses, des fruits de mer rares. J'habite une commune de l'intérieur, donc il n'y a pas la mer. Et il achetait des coquillages, les soudons, enfin, il y a pas ça, on ne dit pas ça ici, mais comme les moules ou les palourdes. Mmh. Et puis, il ramenait une pomme. Il achetait une pomme.
Ok.
Et on était 8 à la maison. Une pomme.
Une pomme pour lui.
Voilà.
On séparait la pomme.
On coupait la pomme en partie, chaque personne mangeait. Oui. Parce que les pommes ne poussent pas chez nous, les pommes fruits ne poussent pas chez nous. Donc les pommes, une pomme France. Et on disait pomme France en plus, une pomme France. Et voilà, on partageait en 8 une pomme.
C'est comme inestimable la pomme. Waouh.
Et moi, mon frère et moi, on rêvait d'avoir, de pouvoir manger une pomme en croquant dedans. Parce qu'on voyait ça dans les films, à l'époque c'était des films sur la civilisation romaine, les Romains qui étaient
à table, les Romains,
et les Romains. Et quand je suis entrée en sixième, je suis allée au lycée, et j'avais, comment dire, mon budget de la semaine me permettait, parce qu'il fallait payer le taxi pour arriver à Fort-de-France et tout ça. Et on me donnait, c'était un billet de 10 francs, de 10 francs.
Ouais.
Il me restait 80 centimes. 80 centimes, je pouvais acheter une pomme pour la croquer comme ça. C'est là les premières pommes que j'ai mangées en croquant dedans, parce que voilà, sinon wow. Il fallait en partager la pomme en 8.
Et puis on appréciait. Ben oui, c'est vrai, on appréciait, parce que même une orange, une mandarine, tu vois, on séparait, on met tranche par tranche, et on séparait, on était à plusieurs. Donc chaque personne une tranche. Mmh. Et avec la peau, on s'amusait même avec la peau, tu vois. On mettait ça, par exemple, quand il pleut, on fait un bateau avec. Et ça circule, on fait une course, tu vois. On fait une course, après on enlève les branches pour que ça puisse circuler. C'était incroyable quand on s'amusait comme ça.
Et un de mes contes, je raconte qu'il y avait... C'est un enfant qui, justement, a utilisé l'orange que sa marraine lui avait donné pour ses étrennes, parce que, alors, je dis souvent, à cette époque-là, on ne donnait pas aux enfants les jeux. et on donnait... ta grand-mère, ta marraine ou ton parrain te donnait une orange pour tes étrennes, le cadeau du nouvel an. Et on te disait, garde les pépins, ils te porteront chance. Et justement, cet enfant-là, il avait gardé les pépins, et c'est ça qu'il a, avec les pépins, qu'il a réussi à se sauver du diable.
Ah ouais. Ah, c'est bon.
Et puis, c'est vrai que ça procurait une sensation de plaisir incroyable. C'est important de prendre du plaisir. Comme je te dis, même avec une pelure de mango, tout ce qu'on avait, d'abricot. Donc on pouvait détourner ces trucs-là et on s'amusait, on était excités quoi. On était excités, on avait les yeux qui brillaient quoi, tu vois, on était heureux, tu vois. On réalise, avec le recul, je me dis, waouh, quelle chance d'avoir vécu ça, tu vois.
C'est exactement ce qu'on est en train de se dire.
Exactement.
Parce que nous, notre besoin de sérotonine pour recevoir ce plaisir-là dont tu parles, c'est, étant donné qu'on a été stimulé très vite par des trucs extérieurs, ça nous demande beaucoup de choses pour retrouver ces sensations-là.
Mais les jeux qu'on avait, les enfants de maintenant, n'ont pas ça. On jouait aux gendarmes voleurs, il fallait poursuivre les gendarmes poursuivre le voleur, et puis au cow-boy qui avait un cheval, alors on prenait une branche, on s'est mais ça était entre les jambes pour chevaucher le cheval, c'est une branche qui traîne pas. Et voilà. Et quand on allait à la rivière pour laver le linge, il n'y avait pas l'eau courante à la maison, donc le jeudi jour, il n'y a pas classe, on va à la rivière avec la maman pour laver tout le linge. Et la rivière où j'allais, il y avait un peu, enfin, après l'endroit où se mettaient les civières, les lavandières, il y avait un gros rocher qui avait été fendu, et puis justement la rivière passait dans la fente. Mais la fente était à peu près de cette largeur-là, et nous, on s'amusait à jouer à Tarzan ou bien au cow-boy, et on avait on enjambait l'espace entre les deux pierres en disant on va franchir le canyon du Colorado.
Et c'est vrai que moi, ce qu'elle dit là, moi j'ai connu, peut-être pas exactement, mais j'ai vécu un peu de trucs comme ça, un peu similaire. Parce qu'on avait juste, dans notre quartier, il y avait une télévision qui fonctionnait avec une batterie. Il y avait une dame qui avait la télévision chez elle. Donc, des fois, le dimanche, tous les dimanches après-midi, il y avait un western à 4h30, je me souviens. Et donc, tout le monde, tout le quartier était devant la télé, tu vois. Donc, il y avait tout le monde chez la dame, comme ça, on est assis, il y a des gens dehors, par la fenêtre, sur le rebord des fenêtres, qui regardaient le western. Et puis, on commentait le western. On était dans le western, parce que maintenant, on regarde un film, il ne faut pas parler. Mais nous, on était dans le film. C'était tellement intense pour nous. C'était tellement beau et incroyable. C'était tellement... c'était merveilleux, quoi. Donc, et après, on reproduisait ce qu'on voyait. Le truc, c'est qu'il fallait continuer. Il fallait continuer. Donc, on fabriquait nos fusils avec du bois, les arcs ou les indiens avec des fils de pêche, du crin. Et avec un bâton, et puis c'était les gendarmes voleurs, et puis on se cachait dans tous les coins, et puis ça durait des heures, quoi. Des fois, on se faisait mal.
Est-ce que vous avez eu l'impression de vivre une enfance libre?
Ah oui.
Ah oui. Parce que ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on ne vivait pas avec les portes fermées. Les portes étaient ouvertes, et puis on se faisait confiance. Tout simplement, dans le quartier. Donc, les adultes s'occupaient de nous. Notre maman n'est pas là, mais ils nous voient faire une bêtise. Ils peuvent nous réprimander, ils peuvent même nous taper. Et on n'a pas intérêt à le dire à notre mère, ni à notre papa, parce qu'eux, ils vont nous donner d'autres. Parce qu'ils vont dire, ce que tu as fait, tu l'as mérité. Donc maintenant, si tu fais ça à un enfant, ils vont aller se disputer avec les parents. Pourquoi t'as pas fait mon enfant?
C'est la communauté entière qui élève
l'enfant. C'était la communauté complètement qui élevait l'enfant. Mmh. Et tu passes à côté de la personne, tu dis pas bonjour, elle te demande où est-ce qu'il est, monsieur, bonjour. Tu dis, ah oui, bonjour. Elle va dire à tes parents après, tu es passé, tu n'as pas dit bonjour, tu vois. Donc, il y avait une éducation comme ça. Ouais. Tout le monde nous éduquait.
Ah, ouais, ça.
Ouais. Et d'ailleurs, même des fois, on avait... Ils te demandent, est-ce que tu as déjà mangé? Ta maman a fait à manger? Ah non, maman, elle n'a pas fait à manger. Elle n'a pas grand-chose là aujourd'hui. Ah, viens manger. Puis dis à ta maman de venir chercher un plat aussi. Ah, tu vois, c'était un peu... C'était ça.
Une grande solidarité, donc.
Énorme, ouais. Et on ne cherchait pas de, comment dire, je ne trouve pas le mot, mais on n'était pas gênés, quoi.
Ouais. Tu vois? Ça se passait ensemble.
Ça se passait comme ça, parce que eux, des fois, c'est eux qui n'avaient pas. Et puis,
C'est la question de la place.
C'est, on disait, un piment pour un citron. Moi, aujourd'hui, c'est moi qui te donne un piment, mais demain, tu me donneras un citron.
Oui. Puis je pense que c'est parce que chacun pouvait trouver sa place dans des sociétés comme ça. Que là, nos sociétés à nous, même là, moi je vis à Montréal, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations précaires, d'itinérance et tout ça, parce que c'est plus difficile de trouver sa place.
Ah non, mais aujourd'hui, ma mère on cueille des fruits à pain chez nous, et bien on apporte pour la voisine. Le jour d'après, elle fait des ignames, elle nous donne des ignames, mais on partage. C'était comme ça dans le temps. Maintenant, il faut aller au marché acheter les ignames à combien d'argent?
C'était trop bien. J'espère que vous avez kiffé, c'était trop bien.